Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée jadis sauvage qui désormais, confinement oblige, va se dérouler sur moquette, au cœur même de mon salon. Deux heures d'une compétition toujours aussi folle entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se disputent la sacro-sainte couronne de chroniqueur du jour. Rien ne change, si ce n'est qu'on est chacun chez nous, en pyjama pour les uns, en déshabillé de satin pour les autres. Bonjour Eva Roque.
Vous croyez vraiment ?
Décrivez-nous la situation.
Eh ben, je crois que je suis à peu près seule en studio, heureusement avec notre invité du jour, pendant que vous, vous êtes en slip dans votre cuisine, si j'ai bien compris.
J'ai passé un pantalon, figurez-vous.
D'accord.
Exprès pour nos auditeurs.
Ouais,
aujourd'hui, que nos fans se réjouissent, double ration d'Eva Roque, 17 minutes de gagné pour savoir quoi regarder sur les écrans ce soir, et 17 minutes de paix, ouais. Nouvelle rubrique pour savoir comment occuper les enfants quand on essaye de télétravailler, c'est ça Eva ?
Exactement, les 4 contenus rien que pour vous, pour toute la journée.
Avec nous cet après-midi, un invité d'honneur qu'on connaît bien à Europe 1 et qui d'ailleurs se trouve, lui, contrairement à moi, dans le studio Coluche à Europe 1. Alors évidemment, pour ce raid dans Paris à l'heure du confinement, il a pris quelques précautions.
3 litres d'eau stockés dans une poche sous, plus une bouteille d'un litre en plastique, 5 barres de chocolat, 2 burritos, un muffin au chocolat. Ça pèse lourd tout ça.
Bonjour Christophe Ondelat.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous Christophe. On va jouer franc jeu avec nos auditeurs. Vous êtes donc physiquement seul en studio à Paris avec Eva Roque. Je sais que vous avez vécu des trucs compliqués dans votre vie, mais là, vous n'avez pas trop peur, quand même.
Absolument pas. S'il y a quelqu'un qui n'a pas peur, je serai le dernier en studio ici à Paris. Je vous le dis, moi.
Christophe, vous présentez chaque après-midi à 14h On de la Traconte. D'habitude, des récits glaçants. Mais depuis hier, vous avez fait exploser votre concept pour être au plus près des auditeurs. Vous les appelez à nous raconter leurs histoires, leur confinement.
Oui, parce que en gros, pour résumer, je raconte souvent des histoires très anxiogènes. Et que je pense que ce n'est pas le moment de raconter des histoires anxiogènes. Donc, on donne la parole à nos auditeurs. Et probablement que je ne sais pas quand nous reviendrons à raconter des histoires.
C'est sûr. Alors Christophe, on va parler de votre émission. Vous allez aussi nous dire comment vous vivez personnellement cette période particulière que nous traversons. Mais d'abord, je vous présente les forces en présence, nos deux premiers journalistes en compétition cet après-midi, qui sont évidemment en duplex de chez eux. Je crois que Mathieu Charrier est avec nous. Alors c'est normal que ça résonne, c'est très grand chez lui. On parle quand même du vice-chef adjoint délégué du service culture. Il est obligé de se déplacer en vélo de la chambre au salon. Laissons-lui le temps d'arriver. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Mathieu. On doit la vérité à nos auditeurs. Je vous rappelle que vous venez de changer d'appartement depuis votre promotion au sein d'Europe 1 et que donc vous pouvez télétravailler de façon très confortable.
17 mètres carrés, ça reste petit. Vous êtes l'expert cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier. Axel de Tarlet, notre économiste, nous parlait hier du succès incroyable de Netflix en cette période de confinement. Mais vous allez nous démontrer qu'en matière de VOD, il n'y a pas que Netflix. On peut varier.
Exactement. Je vais vous donner des petits sites de VOD, alors qu'ils soient gratuits ou payants, mais sur lesquels vous allez pouvoir voir plein de jolis films qui changent effectivement de Netflix, Canal, etc. où il y a des bonnes choses aussi. Mais là, on va essayer d'être un petit peu plus original.
Mathieu Charrier est donc en duplex avec nous depuis le 19e arrondissement de Paris. Sa concurrente du jour est bien loin de là, dans un pays qui sait garder son sang-froid en toutes circonstances.
Il ne faut pas avoir honte d'être gay.
Direction l'Allemagne, où nous attend notre correspondante Hélène Kohl. Allemagne, Hélène, où certains ne sont même pas au courant de l'existence du coronavirus. C'est vrai ça, Hélène ?
Effectivement, et c'est pour ça que je me demande si la télé-réalité allemande ne va-t-elle pas sauver l'humanité, puisqu'il y a effectivement enfermé quelque part du côté de Cologne, candidats qui ne savent rien de ce qui se passe à l'extérieur.
Mais c'est dingue. Ouais. Merci Hélène. Le programme est distribué. L'équipe est sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc un des piliers d'Europe 1 qui nous accompagne cet après-midi. Vous le connaissez, vous le podcastez sauvagement, car ses récits sont addictifs tous les jours à 14h dans Ondelat Raconte. Christophe Ondelat, vous relatez un crime célèbre, une histoire étonnante, sauf que donc, on l'a dit, le concept change un peu cette semaine. Vous vous adaptez à l'actualité du moment et vous recueillez les témoignages des auditeurs d'Europe 1 qui vous racontent leur confinement, en fait, c'est ça ?
Voilà, qui racontent sans râler. Moi, c'est le seul bémol que j'ai mis.
C'est vous les filtrez comme ça.
Je suis journaliste, donc en vérité, les râleries m'intéressent autant que le reste. Mais là, j'ai décidé de mettre un bémol à ma carte de presse. Donc, je ne veux pas entendre de râleur qui n'a pas compétence. Si un épidémiologiste m'appelle et me dit « Je suis épidémiologiste encore », je demanderai à avoir quand même...
Son diplôme
d'épidémiologie.
Christophe, vous le rappelez, vous êtes évidemment avant tout journaliste. De mémoire de journaliste, est-ce que vous vous souvenez d'un moment aussi marquant dans l'histoire de France que vous avez vécu ?
J'étais à Sarajevo pendant la guerre. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire, il n'y avait pas...
Donc il faut relativiser un petit peu quand on parle d'état de guerre, voilà.
On a... Oui, Je pense que l'expression est abusive. C'est une drôle de situation, puisqu'on a quand même Internet. On peut quand même regarder la télévision. On peut aller faire des courses au supermarché du coin, à la pâtisserie, à la boulangerie. Non, pour moi, c'est pas un état de guerre. Oui, c'est un état de fait absolument stupéfiant, dont on fera le bilan plus tard. Je crois qu'il sera important de faire le bilan. On pourra râler à ce moment-là.
À ce moment-là.
Ouais. À ce moment-là, on pourra
à ce moment-là,
râler et ce ne sera pas le dernier.
Mais, évidemment.
Dans l'attente, je crois qu'il n'y a en vérité aucune raison de se plaindre de rien, hormis les gens qui ont des entreprises. Et encore, toutes les bretelles ont été données, distribuées pour permettre aux gens d'amortir ce choc. Mais pour le reste, oui, c'est une situation inédite, mais ça ne ressemble pas à la guerre en rien du tout.
Depuis trop longtemps, vous écoutez Christophe Ondelat vous raconter des histoires. C'est l'heure de lui rendre la monnaie de la pièce. Racontez vos histoires à Christophe. C'est comme ça que ça se passe cette semaine dans Ondelat raconte. Christophe Ondelat reste avec nous.
Europe 1.
Vous rêvez d'un monde sans coronavirus, un monde où on ne saurait même pas ce que c'est. Eh bien, ce monde existe. Il fait 200 mètres carrés en Allemagne. C'est le studio où est enregistré actuellement et depuis plusieurs mois l'émission Big Brother. Et où les candidats n'ont toujours pas été informés de l'existence d'une quelconque pandémie. Ils s'amusent comme des fous.
On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée.
Zoom sur ce petit monde parallèle dans un instant avec Hélène Kohl, notre correspondante à Berlin.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1,
16h-18h,
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même par les temps qui courent, vous écoutez l'équipe sauvage, 2 heures de rire et d'éclairage en France, mais aussi à l'étranger, car vous le savez, je l'ai encore prouvé vendredi face à Melabedia, je suis avant tout ce qu'on appelle un citoyen du monde. Est-ce qu'on dit Melabedia ou Melhabedia ou Melrabedia, je ne sais pas.
C'est ce qui sort.
Melhabedia ?
Ouais, vous le dites bien.
Et oui, j'ai été en week-end à Marrakech. Aujourd'hui, on part en Allemagne. On va voir si mon week-end à Berlin l'été dernier a été productif ou pas. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour tout le monde.
C'est une question étonnante. La télé-réalité allemande va-t-elle sauver l'humanité ?
Oui, alors j'ai déjà eu l'occasion de vous parler des mystères de la télé allemande, hein, avec cette série sur les aventures d'une tranche de pain dépressive.
Ah oui, c'est vrai.
Berthe le pain, voilà. Alors, mais il y a aussi ici sur le petit écran des shows dont on ne comprend absolument rien, des émissions de télé de variété en culotte de peau. Eh bien, figurez-vous qu'en ces temps de pandémie, des chanteurs avec en culotte de peau, avec des petits chapeaux à plumes, voilà.
Je connaissais les tricots de peau, mais pas les culottes de peau. Ah, oui. Ça va très loin. Ça.
Les petites culottes tyroliennes et bavaroises, vous voyez.
D'accord. C'est une autre culture, voilà, comme on dit.
Si vous en avez une XXL pour Mathieu, ça serait bien, Hélène.
Mais je vous en prie, Eva.
Double XS sur
elle suffira. Oh, dis donc, Charrier, on se calme. Continuez, Hélène, ne vous laissez pas distraire.
Alors, moquez-vous de cette culture allemande, mais figurez-vous qu'en ces temps de pandémie, notre salut va peut-être venir de l'émission Big Brother, où tout est en train de se jouer en ce moment dans un hangar de Cologne. Alors, Big Brother, vous connaissez le principe de l'émission. En France, je crois que le concept, il a été décliné sous le nom de Loft. C'était au début des années 2000, donc un temps que les moins de 20 ans ont un peu de mal à connaître. Mais puis pour les plus jeunes, il y a aussi eu, je crois, Secret Story.
Exactement.
Bref, là, on a une vingtaine de candidats enfermés dans un loft ou dans une villa truffée de caméras, et ce, pendant une durée précise. Ici, en Allemagne, le concept existe depuis 20 ans, il n'a pas du tout évolué. Et notre troupe de volontaires de cette année s'est donc retrouvée le 6 février dernier, quelque part en banlieue de Cologne, pour vivre 100 jours, coupé du monde, dans un hangar transformé en appartement vaguement tendance, avec un jacuzzi, une salle de sport et des tapis imprimés zèbres. C'est très chic.
Très chic, oui.
Sauf que, voilà, c'est ça. Sauf que le 6 février dernier, Mathieu, bah, c'était une tuto très
partie. Eh oui, c'était avant.
Mais oui.
Exactement.
Ça va leur faire brûler la sortie.
Voilà. Personne ne se doutait que le virus dont on parlait vaguement en Chine allait débouler par chez nous. Personne
n'a pas vu que les caméramans avaient mis des masques et des gants et ça leur a pas mis la puce à l'oreille.
Et ils les voient pas. Ah, il ne voit pas les caméramans.
Il ne voit personne.
Alors, personne ne parlait de ce virus, à part peut-être quelques spécialistes, mais à vue de nez, ce n'est pas tellement le genre de personnes que fréquentaient nos candidats allemands. Leurs profils sont clairement différents. Mais encore une fois, il ne faut pas se moquer parce que c'est peut-être les seuls qui vont survivre à cette pandémie.
C'est vrai.
Voilà, parce que eux, en fait, ils ont un confinement complet depuis maintenant 5 semaines et ils ne savent absolument rien de ce qui se passe à l'extérieur. Ils vivent dans une parfaite insouciance. C'est la communauté des ignorants, nous dit Süddeutsche Zeitung. Et c'est beau, c'est même un peu émouvant de les voir comme ça s'ébattre dans leur jacuzzi en parlant de sexe, évidemment. De les regarder paniquer quand Jade, l'influenceuse beauté Instagram aux lèvres surgonflées, se met à perdre ses extensions sous la douche. Alors, on peut suivre comme ça l'entraînement quotidien. On a l'entraînement quotidien de Denis. Alors, Denis, lui, c'est un boxeur tatoué du Brandebourg. Et puis, il y a aussi les vocalises matinales de Menowin, qui est un ancien candidat de The Voice Allemagne, qui est connu pour ses gros ratages toujours en direct, et qui veut, alors c'est quand même un gros défi, profiter de l'expérience du confinement pour décrocher de la coke.
Oh là là, d'accord. Hein. Oh, mais le casting, quoi.
Un bel objectif.
Exactement. Alors, le casting, la production avait demandé, alors, est-ce que vous avez soif de vie, si vous ne rentrez dans aucune case, et si vous êtes prêt à tous les délires, venez nous retrouver. Alors, c'est beau de penser que peut-être, qui sait, ces jeunes Allemands tatoués, bronzés aux UV, bodybuildés pour les messieurs et un peu refaites de partout pour ces dames. C'est donc ceux-là qui auront la lourde tâche de repeupler la planète, peut-être.
Et oui, c'est très très rassurant tout ça, Hélène.
Non, en fait, je me dis que heureusement, en Australie, il y a la même chose qui se produit en même temps. Donc avec un peu de chance, on pourra les croiser.
Ça fera une nouvelle espèce.
À condition qu'ils arrivent à se retrouver quelque part. Et alors, le pire, c'est que ce soir, ils vont prendre conscience de leur statut d'élu, puisque après plusieurs jours, la production a décidé qu'elle allait leur dire. Et donc, ils vont être convoqués tout à l'heure en direct et ils seront mis face à l'horrible nouvelle. Un médecin sera là pour répondre à leurs questions. Peut-être ils pourront même voir des vidéos de leurs proches qui leur ont enregistré leur tout dernier message.
Oh, mais c'est horrible.
Oh mon Dieu, mais c'est affreux.
Mais ils vont jamais vouloir sortir, Hélène, surtout.
Alors voilà, à l'issue de l'émission, ils pourront choisir s'ils restent à l'abri dans ce fameux hangar de Cologne ou s'ils préfèrent sortir et se confronter à la réalité, sachant que Cologne, c'est l'épicentre de l'épidémie ici en Allemagne.
Je n'aimerais pas faire le médecin du café du commerce, mais on entend beaucoup parler de cette théorie qu'on est tous protégés de manière collective au bout d'un moment, si une certaine partie de la population est contracte le virus.
Oui, on peut tous mourir aussi.
Mais il y a cette théorie, enfin c'est pas une théorie d'ailleurs, c'est quand 60% de la population aura ce virus, on sera tous à peu près immunisés, mais eux, au contraire, ne risquent pas d'être les survivants, mais si jamais ils n'ont jamais été en contact avec qui que ce soit qui a le virus, peut-être que ça sera pas de bol pour eux.
Ouais.
C'est l'inverse, Mathieu.
Mais vous avez rien compris, c'est quand 60% de la population a eu le virus, toute la population est protégée parce qu'il y a...
Ça n'a absolument ni queue ni tête. Raison pour laquelle certainement je n'ai pas été pris en première année de médecine.
Voilà.
Effectivement, nous avons maintenant la réponse à cette question que je me suis posée depuis longtemps. Merci Mathieu Charrier et merci Hélène Cole. C'est la première fois qu'une correspondante à l'étranger était en compétition. Si vous emportiez la couronne, ça serait tout à fait historique. On serait obligé de vous l'envoyer en colissimo, vu le bordel à la frontière franco-allemande. Pas sûr qu'elle vous arrive sous 3 jours ouvrés.
Europe 1.
À suivre, nous n'en sommes qu'au 2e jour de confinement et déjà devant l'écran de Netflix, vous commencez à soupirer, à vous exclamer comme Mathieu Charrier.
Il manque que ça se termine.
Amateurs de films et de séries, rassurez-vous, il existe bien d'autres plateformes que Netflix pour assouvir toutes vos envies de fiction. Mathieu Charrier vous a préparé une petite sélection pour adoucir cette semaine de confinement. Oui, je sais, vous êtes supposé être en télétravail, mais c'est entre nous. Votre patron n'en saura rien, ce sera notre petit secret, mes fripons.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Le confinement vous angoisse, vous tournez en rond dans votre appartement, l'équipe est sauvage se mobilise pour vous changer les idées, toute l'équipe est là, un peu disséminée, Eva en studio, les journalistes chez eux, moi dans mon salon et notre invité en studio avec Eva, un invité au moral en acier trempé qui en a vu d'autres que ce coronavirus ou nez et qui n'a pas peur de l'épidémie comme il le confie hors antenne à Eva.
Oh, mon Dieu! Françoise,
c'est Eva, pas Françoise, Christophe. Christophe Ondelatte est notre invité. Là, vous avez reconnu évidemment le Ondelatte acteur au service du récit de Ondelatte raconte tous les jours 14h sur Europe 1. En vrai, Christophe, on en parlait un peu tout à l'heure, vous n'avez pas l'air d'être terrorisé par la situation. Vous avez l'air de prendre ça avec un certain recul.
Je fais un métier qui justement est fait pour... alors, je l'exerce plus directement aujourd'hui, mais en vérité, la base, le fond de notre métier, c'est d'être intéressé par tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, oui, ça m'intéresse. Non, ça ne me fait pas peur. À titre personnel, je n'ai aucune peur. On est fait comme ça, on est fabriqué comme ça depuis tout petit. Ça nous positionne un peu en marge de la société, mais ça nous aide à affronter ce genre d'événements. J'ai peur pour les autres, en vérité, mais pour moi, strictement pas, non.
Et Christophe, sur les mesures, on sait, ceux qui vous connaissent savent que vous êtes un caractère assez indépendant, vous n'aimez pas trop qu'on vous donne des ordres. Est-ce que là, toutes ces règles qui viennent de tomber, ça vous pèse, c'est un fardeau pour vous, vous comprenez? connais mais, parfaitement.
Moi, je suis un type avec, à principe, c'est ce qui me rend un peu raide parfois, mais j'aime bien poser une sorte de tamis en début, comme ça, d'événements et dire comment, voilà ce qui va me servir à trier les choses. Mmh. Et j'ai décidé d'obéir au président de la République depuis le début de cette crise. Quand le président me dit de faire quelque chose, je le fais. Quand il ne me le dit pas, je continue à vivre normalement. Voilà. Et je crois que lui est conseillé, lui prend l'avis d'expert, et on a besoin d'autorité. Et pour le coup, j'ai décidé d'obéir au président de la République. Il ne s'agit pas d'aller s'incliner devant Emmanuel Macron en tant que personne, mais le personnage, l'autorité qu'il représente mérite d'être respectée, et je respecte strictement ce que me dit le président de la République. Et je crois que chacun devrait s'en tenir à ça. En tout cas, moi, c'est ma règle de conduite. Je crois qu'il faut, obéir au chef. Mmh. Et c'est indispensable dans le type de période qu'on traverse. Voilà.
Il y a quelques jours, Christophe, pour évoquer un passé plus rieur, On de la Traconte était consacré à Robert Badinter, une série d'entretiens exceptionnels que vous retrouvez d'ailleurs en podcast sur Europe 1.fr.
C'est le moment d'écouter tous les podcasts.
C'est le moment où vous pouvez vous régaler.
Il y a 5 heures. Alors que l'ensemble fait 5 heures. Donc il y a matière, parce qu'il faut que les gens ne le savent pas toujours. Ce qu'on entend à l'antenne, notamment en matière d'interview, est beaucoup plus long sur le podcast. On est sans limite sur le podcast. Et notamment en ce qui concerne Robert Badinter, ceux qui ont écouté l'émission à l'antenne trouveront des interviews parfois deux fois et demi plus long en débrief sur le podcast. Ouais.
Comment vous l'avez enregistré? Déjà, comment est née l'idée de ces entretiens avec Robert Badinter, ces entretiens sur la longueur?
Il y a des gens intéressants et puis d'autres moins.
C'est un monsieur intéressant. Il ne ferait pas une série d'entretiens avec vous, Mathieu,
C'est un monsieur très intéressant par l'expérience, par l'espèce de ligne qui se tend dans sa vie. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il a produit une œuvre littéraire sous la forme de deux livres qui s'appellent L'Exécution et l'Abolition, et notamment L'Exécution est à mon sens un livre absolument remarquable sur le plan littéraire. D'ailleurs, lui qui n'est pas avare d'autocompliments m'a dit je pense qu'il est nettement supérieur au second. c'est la vérité. Ce livre est absolument prodigieux, et Robert Badinter fait très exactement ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire qu'il raconte minute par minute vu de lui-même. Je n'ai pas eu à gratter. Parfois dans des livres il faut aller gratter pour trouver le substrat. Là, tout est là. On dirait qu'il a écrit ce livre pour que je le raconte un jour, c'est le sentiment que j'ai eu, et je poursuivrai. La quarantaine là va me permettre, puisqu'on a un peu de temps libre et que de fait mon émission aujourd'hui me prend strictement aucun temps de préparation, j'ai le temps de préparer la suite, et je vais écrire deux épisodes supplémentaires sur la période qui mène jusqu'à l'abolition en septembre 1981 de la peine de mort en France.
Mais pourquoi l'avoir fait à ce moment-là? Il y avait un contexte particulier qui vous donnait envie d'entendre sa voix un peu comme un grand sage dans un bordel ambiant?
Notre bureau, c'est un tas de livres. Et puis les livres apparaissent comme ça, ils sortent de la cave. Voilà, celui-là, à un moment donné, ça fait longtemps qu'on en parlait avec Nicolas Loupien, mon rédacteur en chef. Et puis tout d'un coup, le moment est venu. Mm-hmm. Il y en a d'autres comme ça qui sont en attente depuis très longtemps. Il faut avoir, par exemple, j'aurais envie de raconter le 18 juin 40 autour des mémoires du général de Gaulle. Donc on est en train de lire les mémoires du général de Gaulle, le bouquin est formidable, mais est-ce qu'on peut en tirer, c'est pas certain, est-ce qu'on peut en tirer un récit? Mais est-ce que de Gaulle a raconté suffisamment les détails de son cheminement, de ses déplacements, de tout ça? Ça n'est pas certain. Donc actuellement,
parce que, Christophe, ce qui est important de dire pour nos auditeurs, c'est que autour d'une histoire vraie, vous ne vous permettez jamais de broder quoi que ce soit pour que ça soit plus agréable à écouter.
Quand j'adapte un livre, ça dépend des livres, certains livres sont plus adaptés, sont plus préparés à l'adaptation radio, mais quand j'adapte un livre, je garde le maximum de mots de l'auteur. Et c'est ça qui fonctionne, parce que lorsque ce sont des autorécits, les gens sont stupéfaits de réentendre leurs mots. Lorsqu'il s'agit encore plus de livres anciens, et le livre de Robert Badinter est sorti en 1973 ou 74, le premier, L'Exécution, donc il ne l'avait pas évidemment relu depuis 45 ans, et il était stupéfait, parce qu'il reconnaît les mots. Il reconnaît sa sensibilité. Et je fais ça pour tous les livres. C'est ça qui prend un temps fou. C'est que je travaille sur la matière brute, sur le livre, tout seul, devant mon ordinateur. Mes collaborateurs m'ont surligné le livre pour aider à aller à l'essentiel. Et ils me proposent souvent, pas toujours, mais un plan en me disant, en gros, tu vas pouvoir aller de là à là, de là à là et de là à là. Voilà, c'est tout. Mais je travaille sur la matière brute et donc je garde le maximum de mots.
Et c'est peut-être ça, le secret finalement, Eva, de On de la Traconte, c'est tout simplement que Christophe bosse énormément. Il n'y a pas de secret. fait finalement. Voilà. Tout simplement ça. Je vous en prie, Eva. Il vous donne la parole désormais dans Ondelat Raconte chaque après-midi à 14h. Merci d'être passé nous voir, Christophe Ondelat. Revenez quand vous voulez.
Avec un couteau.
même sans couteau, Christophe, ça nous fait plaisir quand même. Europe 1. Il vient d'écouter mon interview de Christophe Ondelat attentivement.
C'est une leçon de journalisme ce que vous venez de faire.
Il est prêt à tout, vous l'entendez même à dire n'importe quoi pour décrocher mon vote. Mathieu Charrier, notre deuxième prétendant au titre de chroniqueur du jour, s'échauffe. Son sujet est vendeur, les alternatives gratuites à Netflix pour occuper les cinéphiles qui nous écoutent et qui en ont marre de re-regarder en boucle La Casa des Papel. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage spéciale confinement continue et avouons-le, la situation anxiogène que nous vivons peut nous rendre chèvres, comme dirait ma grand-mère. Partagé entre le bonheur d'être à la maison avec ses enfants et la peur de l'épidémie, on oscille en permanence entre... lorsqu'on regarde les chaînes infos et... lorsqu'on regarde les voisins d'en face guinchés au balcon. Puis, tout de suite, vous recevez un push d'infos sur votre smartphone. Puis votre fille vous saute dans les bras en vous tendant le dessin d'un mouton avec écrit « Je t'aime » en lettres tordues. Et au bout d'un moment, dans votre tête, ça fait... Alors pour éviter de sombrer dans la schizophrénie, les amis, choisissons une troisième voie, celle de la compétition. Car oui, si la Ligue 1 est à l'arrêt, le championnat européen des meilleurs journalistes, lui, continue. Et justement, l'heure est venue d'écouter notre deuxième concurrent du jour, un journaliste qui est à cette émission ce que le Covid-19 est au ministère de la Santé. Un élément d'abord sous contrôle.
Et puis patatras, ça part en cacahuète.
Mathieu, vous êtes le monsieur cinéma d'Europe 1. Nos auditeurs comptent sur vous, surtout aujourd'hui. En dehors de Netflix, y a-t-il, oui ou non, un salut ?
Il y a plein de choses en dehors de Netflix, MyCanal ou OCS. J'en profite pour redire à nos auditeurs d'ailleurs que Canal+ est gratuit en ce moment et que OCS, si vous avez une box Orange, est également gratuit. Donc profitez-en pour aller sur ces plateformes-là. Mais effectivement, il y a tout un tas de services de VOD gratuits ou peu chers qui sont formidables. Je vous donne quelques conseils pour passer le temps. Le premier, c'est une plateforme qui s'appelle la Cinétech. Ça s'écrit C-I-N-E-T-E-K. Elle a été fondée par trois réalisateurs, dont Cédric Clapiche, qu'on va entendre dans un instant, avec une idée simple. Demander aux grands réalisateurs du monde entier de sélectionner les films de patrimoine qu'ils recommandent au grand public, ceux qui les ont inspirés. Alors du coup, c'est classé par réalisateur, ils vous donnent vraiment leurs conseils. Vous avez Bong Joon-ho, vous savez, qui vient de réaliser Parasite, qui cartonne, Oscarisé, Palme d'Or, etc., qui vous conseille sa cinquantaine de films. Alors on va du formidable Deliverance à Shining, en passant par Les Affranchis. Il y a beaucoup de films asiatiques aussi. Je parle des Affranchis, d'ailleurs Martin Scorsese a lui aussi fait sa sélection sur le site. Et tous ces films sont donc disponibles. Alors soit vous les achetez, ça coûte 2,99€, on est bien loin du prix d'une place de cinéma, soit vous abonnez pour 10€ par mois. Alors justement, j'ai appelé hier Cédric Clapiche et je lui ai dit « Dis-moi, toi, quoi regarder sur la plateforme ?»
Faut le tutoyer.
Dites-moi, vous, quoi regarder sur la plateforme en ce moment ? Écoutez sa réponse.
Il est tellement showbiz.
Moi, j'ai donc fait ma liste de 50 films. Donc forcément, je vous dirais que ma liste est la meilleure de toutes les listes. Mais moi, j'ai mis plusieurs films de Fellini, La Dolce Vita, Les Nuits de Cabiria. J'ai mis Les Sept Samouraïs que j'ai revus il y a quelques jours avec mon fils de 12 ans. Et c'est quand même un film qui est extraordinaire à montrer aux enfants. Et du coup, il y a les films de Chaplin, il y a les films de Jacques Tati, il y a les films de... Il y a plein de films comme ça qui sont des films, disons, de cinémathèque, mais qui sont adaptés aux enfants. Pareil avec L'Homme de Rio, que j'adore, À bout de souffle, de Godard, Fanfan la Tulipe, pareil, qui est un film vraiment génial à montrer aux enfants. Le Corsaire Rouge, si vous avez des enfants et que vous aimez les films de pirates, Le Corsaire Rouge, c'est extraordinaire. Ça va vraiment des comédies aux films très ardus, poétiques, expérimentaux, bizarres. Donc c'est vrai que là on va être beaucoup chez nous et c'est vrai que c'est un site qui est plutôt bien en ce moment pour découvrir des choses pas que débiles quoi.
Voilà, c'est un peu la DVD tech idéale, vous avez tout le grand cinéma du 20e siècle, il y a même une petite section trésor caché. Voilà, c'est une belle plateforme, je vous rappelle le nom, la Cinétech, C-I-N-E-T-E-K.
Franchement, on peut rester confiné des mois sans problème avec ça.
Et on peut rester confiné pendant des mois, surtout vous, Mathieu, qui, je crois, aimez bien être chez vous pour pouvoir déambuler pieds nus sur Tomette. C'est une de vos passions. Vous en aviez parlé une fois rapidement à l'antenne. J'aimerais en savoir un peu plus.
Mais ça, c'est, vous savez, c'est l'été. C'est qu'effectivement, j'ai des tomates dans mon salon.
Ah, ça y est, ça repartit.
Et du coup, quand le matin, je vais prendre mon café, oui, je suis pieds nus. Et parfois, ouais. Dans le plus simple à Paris.
Vous n'avez pas un autre conseil par hasard à nous donner, plutôt que la Snetech?
Je vais vous parler d'Open Culture.
Mathieu Noël, restez attentif.
Open Culture, site gratuit et légal, qui diffuse tout un tas de choses, des livres, etc. Mais il y a plus de 1000 films qui sont disponibles légalement. Alors souvent, c'est en anglais, c'est souvent aussi sous-titré. Il y a notamment les tout premiers longs-métrages d'Hitchcock, je vais y arriver, de Stanley Kubrick,
tout ça, c'est gratuit, ça.
Gratos, ouais. Totalement gratos. Moi, hier soir, j'ai regardé The Terror. Là, c'est un film tourné en 63 par Roger Corman, qui avait alors comme assistant un certain Francis Ford Coppola. C'est pas mal. Au casting, notamment Jack Nicholson. En français, ça s'appelle L'Halluciné. Je vous lis le pitch. Lors de la retraite de Russie, André Duvalier, jeune lieutenant, est secouru par une fort belle femme sur les côtes baltiques. Elle l'emmène au château du baron von Lepe et disparaît, sauf qu'André Duvalier est frappé par la ressemblance de cette jeune femme et le portrait de la femme du baron morte il y a 25 ans, Ce film-là, il est gratuit, légalement, je le redis, donc c'est sur Open Culture, vous tapez ça sur votre moteur de recherche, hein, Open, O-P-E-N et Culture, vous allez sur le site et vous allez sur l'onglet Movies, franchement, là aussi, c'est du patrimoine, mais vous pouvez y passer pas mal de temps.
Ok, alors tout ça, Mathieu, c'est bien joli, mais vous connaissez mon côté franchouillard, regarder français.
Voilà, donc je vous ai parlé de la Cinéthèque, il y a des films en français, mais j'ai un autre site qui est très bien, ça s'appelle Univers Ciné, et là, c'est les 43 distributeurs indépendants qui sont réunis pour créer leur propre site et proposer leurs films en VOD, il y en a plus de 5000. Par exemple, vous avez le formidable J'ai perdu mon corps, qui a défendu les couleurs de l'animation française aux Oscars, ou encore Papicha, dont je vous ai beaucoup parlé sur cette antenne sur la série des années 90. Donc là, c'est un site de VOD classique, c'est-à-dire que vous louez vos films 4,99€, vous pouvez l'acheter 9,99€, mais l'avantage, c'est contrairement à l'Apple Store, etc., l'argent revient à nos distributeurs de cinéma et pas à des plateformes basées à l'étranger. Donc en faisant ça, vous vous faites plaisir et vous financez le cinéma qui, en ce moment et dans les semaines et les mois qui viennent, va en avoir besoin évidemment.
Et Mathieu, qu'est-ce qui, juste dans un mot, je ne sais pas si vous le savez, mais en tant qu'expert cinéma d'Europe 1, qu'est-ce qui va se passer pour tous ces films qui devaient sortir là dans les semaines qui viennent?
La grande question qui va se poser et la grande.
Il va y avoir un embouteillage.
Exactement. Alors, ce qui est en train de se passer aussi, c'est que vous avez des tournages qui sont décalés, donc des films qui devaient sortir, donc, qui vont sortir plus tard. Ouais. Après, je vous cache pas que fin août, septembre, octobre, qui est déjà une période très 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 chargée en termes de sortie de films, ça risque d'être un très très gros embouteillage.
Mais on y reviendra peut-être dans une prochaine chronique.
On a le temps maintenant, on est chez nous, on est tranquillou bilou. Merci Mathieu Charrier, cette chronique vous permettra-t-elle de rebondir un petit peu au classement? Vous le saurez juste avant 18h.
Je voulais proposer, comme Jean-Michel Aulas, d'annuler cette saison finalement.
Non, commencez pas. Allez.
C'est parce que vous êtes aussi loin que Lyon au classement, c'est ça?
Vous manquez pas.
Non, pas de dérogation, Jean-Michel Aulas et Mathieu Charrier. Non.
Europe 1.
À suivre, c'est une séquence qui a fait le miel des plus sadiques d'entre vous. Le quiz de Culture G qui oppose chaque après-midi Eva Rock à notre invité. Des invités qui la plupart du temps se contentaient de gagner, mais qui parfois ajoutaient la cruauté à l'humiliation en jouant des tours à Eva, comme Michel Simès.
Eva Rock, chez l'homme, le testicule gauche est plus chaud que le droit.
Faux.
Non, c'est moi qui réponds, mais vous allez me permettre d'avoir un point, donc je dis faux.
Eh ben non, c'était vrai.
Ah. Et oui, attention à nos invités vicieux, à tout de suite.
Europe 1, l'équipe est sauvage, 16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Se cultiver et s'amuser, même confiné, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures d'une d'une compétition âprement disputée, opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 en duplex de chez eux, confinement oblige. On rappelle que c'est aussi un acte de civisme que de rester chez soi quand on est bien portant, car on peut très bien être porteur sain du foutu virus. J'aurais d'ailleurs une pensée pour nos personnels soignants, nos médecins, qui il y a quelques semaines encore étaient en vacances et loin d'imaginer ce qui les attendait.
Salut Jérôme.
Salut.
Vous avez le soleil.
Il nous a amené le soleil.
Si t'as le moindre pépin, je suis médecin. Moi, faut essayer de pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Merci.
On pense à eux aujourd'hui. On peut dire que l'atmosphère a un peu changé, mais on pense aussi à vous, chers auditeurs, qui cherchez pour vous distraire à vous payer une bonne tranche de rire. Pour cela, quoi de mieux qu'un florilège des meilleures performances des Varocs dans l'épreuve du quiz? Aujourd'hui, les amis, quiz musical. Sur scène, il vous arrive de pousser des cris étranges d'enthousiasme. Et dans votre dernier spectacle, on l'a dit, vous faites chanter votre public. Du coup, on va vous passer des chansons. Un mot sera masqué par un cri. À vous de retrouver ce mot.
Là, je suis nul.
Vous êtes nul, mais vous allez voir, c'est facile.
Ouais.
C'est parti. Jarry, on joue avec Daniel Balavoine.
Ouais, je connais tout de Daniel Balavoine.
La vie ne m'apprend rien.
C'est une médaille.
Il est plus rapide que son cri, la réponse. Mais oui, bravo Jarry, qui marque un point.
Ouais, ouais.
Eva Rock, attention.
Il y a personne qui applaudit quand j'ai un point, en fait.
J'applaudis. Eva Rock, on joue avec Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Changer la vie. Croyait-il inutile la nuit des autres
hommes. Il pleurait sur son saxophone.
Ça va beaucoup me servir comme son. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. En revanche, ça, c'est un son qui isolait.
En tout cas, il y avait du plaisir.
Pour détourner.
Oh,
j'ai envie de voir ton saxophone. Voyons voir la réponse. Saxophone. Bonne réponse, Eva Rock. Oh, que ce quiz est dur. Jarry, c'est au tour de Julien Clerc. Ah. Femme, je vous aime.
Quelquefois, si drôle. Sur un coin.
Ah bah si, mais moi je le
sur
sais.
Un coin. Alors, sur un coin
de table.
Ça, la carrière de Julien n'aurait pas été celle qu'elle a été si ça avait été un coin.
Mais non, mais je sais pas, j'aime pas perdre. Sur un point coin d'épaule.
Sur un la réponse.
Sur un coin d'épaule.
Ouais. Oh, je l'avais.
J'aurais jamais pu présenter une émission de quiz comme Julien Lepers. Je ne sais pas du tout gérer mon émotion.
Pas du tout.
On m'a proposé de présenter des émissions comme ça et je savais que j'allais pleurer. Les gens allaient perdre. J'ai toujours dit non.
Mais c'est pas possible, moi non plus. On n'est pas fait pour ça, Jarry.
Non, on est fait pour autre chose.
Un dernier. Oui, mais il est trop tôt pour en parler.
Non, mais pour des émissions.
Ah oui, d'accord, bien sûr. Bien sûr. Eva Rock, un dernier avec France Gall, Si maman si.
Tous mes amis sont partis.
Paris.
Montpellier.
Non, pourquoi pour Paris,
c'est
pour
Montpellier.
Paris.
C'est Paris. Dis Montpellier.
Bon, vous êtes Montpellier, sûr, Eva? Allez, Montpellier.
Elle a dit Montpellier.
Oh, vous avez perdu, Eva.
Mes vacances, c'est toujours Paris.
C'est Paris. Même... Et comme ça, qui
oui.
a gagné?
Bah, c'est Jarry.
C'est Jarry.
Non, mais je lui laisse le point.
Non.
Que,
si.
Attendez.
C'est toujours l'invité qui gagne.
Là où c'est vraiment un quiz pourri, c'est que ce sont toutes les chansons que vous pouvez entendre dans le spectacle de Jarry.
Alors, c'est exactement.
Donc,
ça change souvent.
Ah, ça change souvent.
Oui, il y a quelques chansons qui changent. Enfin, pas de suspense.
Oui,
il n'y est allé qu'une fois, Eva, quand même.
Il a expliqué que c'était jamais le même spectacle.
En fait. Vous arrivez sur scène en chantant. Vous débrouillez d'ailleurs très bien, Eva. Vous pouvez nous dire que Jarry chante.
J'étais bluffée. Non, mais j'étais franchement bluffée par le niveau de chant.
Bah ouais, mais
j'ai même cru que c'était un playback au début.
C'est vrai?
Ah bah oui.
Non, mais il y a du Maria Carré en moi. Il y a des grandes chanteuses quoi, qui sont venues.
Alors justement, on recevait la semaine dernière Claudia Tagbo ici pour Ghost, le musical. Ça vous dirait d'intégrer une troupe de comédie musicale vu que vous avez tous les talents? Vous dansez, vous chantez?
Je sais pas.
Ça fait pas partie de vos rêves de gosse?
Bah non, pas du tout.
Ah, pas du tout.
Non, mais j'aime pas trop être déguisé en costume et tout. Parce qu'en plus, on va me donner un rôle super chelou, tu vois. Je vais être le comptable gay qui se fait violer par le loup au bout de 10 minutes de spectacle.
Ça, c'est un bon pitch, ça.
Hein?
Je vais peut-être l'écrire, tiens, ça. Vous avez dit aussi, je rêvais de devenir comédien dramatique, de jouer des grands classiques.
Mais oui.
Mais au lieu de faire pleurer, je faisais rire.
Mais oui, mais c'est horrible. Ben, je jouais le mythe de Persée sur l'histoire d'Athéna qui a eu Persée, etc. C'était une petite parallèle. Oui, non, je vois que t'en as absolument rien à foutre.
Bah, si, Nicolas Caron, vous pourrez vous intéresser quand il essaie de reconnecter avec votre chronique.
Voilà, j'ai trouvé du lien. Et du coup, mon père meurt à la fin dans mes bras et là, toute la salle mais hurlait de rire. Et le metteur en scène est venu me voir en disant, bon, Jarry, c'est censé faire pleurer. Je fais, mais moi je suis premier degré, vraiment, je crois vraiment qu'on perd les mains. Et voilà, je me suis fait virer.
Et du coup, ça vous a ouvert les portes de l'humour.
Bah oui,
vous
c'est horrible. Mais même votre... quand j'enseignais, les élèves, ils rigolaient. Ils me disaient tout le temps, mais monsieur, vous êtes pas sérieux. Je disais, mais si, je suis sérieux.
Je suis hyper sérieux.
Europe 1.
Chers auditeurs qui télétravaillaient en nous écoutant et qui géraient aussi en parallèle vos enfants, vous avez écouté les conseils précieux hier d'Anne Le Gall, notre spécialiste environnement, mais clairement pas puériculture.
Première activité pour occuper les enfants, c'est de leur faire laver les vitres.
Certains ont essayé. Promis, aujourd'hui, Eva Rock vous trouve de meilleures idées pour occuper les enfants. 17 minutes de paix arrive juste après un bon vieux Britney Spears toxique sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Comme notre expert cinéma Mathieu Charrier, vous êtes en télétravail et vous espérez réussir à vraiment bosser en télétravail tout en surveillant d'un œil inquiet vos mioches qui s'avancent dangereusement vers le vase Ming du XVIe siècle qui orne votre table basse. Vous vous dites
« Ils vont pas le faire, ils vont pas le faire, ils vont pas le faire !»
Et puis soudain... Adieu le vase Ming. Ne nous voilons pas la face, nous aimons tous nos enfants, mais en cas de télétravail, nous les aimons un peu moins. Heureusement, Eva Rock a sorti de son chapeau une nouvelle rubrique, 17 minutes de paix. Alors Eva, qu'est-ce qu'on propose aux enfants aujourd'hui ?
Alors première chose, le premier qui dit qu'il n'y a rien sur les écrans, je le tape, virtuellement évidemment. Mais première info, Mathieu Charrier en parlait tout à l'heure, je le redis, et puis avec un peu plus de détails, Canal+, est vraiment disponible gratuitement sur toutes les box. C'est cadeau, c'est pour vous. Et puis ceux qui sont abonnés, vous avez accès à toutes les chaînes.
C'est surtout malin aussi.
Eh oui, c'est très malin, bien sûr. Si vous êtes abonné, déjà, vous avez accès à toutes les autres chaînes, celles qui n'étaient pas forcément incluses dans votre forfait, à savoir les chaînes cinéma, les chaînes séries ou encore les chaînes jeunesse. Les parents vont dresser des hôtels, je pense, en l'honneur de Canal+. Canal qui diffuse depuis l'été 2018 une pastille dont je suis absolument fan, Mathieu, ça s'appelle Les Cahiers d'Esther, l'adaptation en animation de la bande dessinée de Ria Satouf. Alors Esther, c'est une petite fille brune, elle a 10 ans et elle a pas sa langue dans sa poche, écoutez.
Moi, je suis en CM1 dans une école privée, ça veut dire payante. Mon père a dit qu'à mon âge, c'est mieux par rapport à la violence des garçons. Il a raison, ils sont tellement cons. Ma meilleure amie, c'est Eugénie.
Salut, ça va, wesh ?
Eugénie, elle dit toujours wesh. De toute façon, je suis assez populaire. J'ai plein d'amis. Notre maîtresse, Madame Moret, elle est trop moche.
Bonjour, madame.
Allez, on se dépêche, là.
À l'école, c'est pas comme à la maison. On peut dire tous les gros mots qu'on veut. Voilà les gros mots que je connais. Merde, cul, putain, bordel, fais chier, conne, ta gueule. En fait, j'aime pas trop les dire. Je trouve ça trop vulgaire. Mais les garçons, ils les utilisent tout le temps. Quand ils jouent au foot et quand ils parlent aux filles.
Bouge de là, dégage de là, bouffiade, va.
Non, c'est une bonne idée, cette série. Qu'est-ce que vous en pensez à regarder avec les enfants?
Mais ça a l'air surtout aussi très, très bien joué.
Non, c'est très bien joué. Alors, Esther, c'est une jeune fille qui est très maligne, elle est très observatrice. Elle évoque aussi bien ses copains que sa famille, mais aussi sa vision de la société. Et dans la vraie vie, comme disent les enfants, eh bien, Esther, elle existe. C'est la fille d'amis de Ria Satouf qui a choisi d'ailleurs de co-réaliser cette série animée. Et c'est sans doute une raison de la réussite de ce programme. L'esprit de la bande dessinée est respecté à la lettre. Alors, faites-vous plaisir avec une séance de rattrapage. Des 50 épisodes, ils sont disponibles sur le site de Canal+ ou sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, si vous êtes fan de la BD, eh bien, le tome 5 est attendu pour le mois de mai. Enfin, était attendu, peut-être qu'il y aura un peu de retard dans la publication, mais enfin, c'est dans les prochaines semaines. Idéal pour les enfants à partir de 8 ans, même si vos bambins risquent de répéter quelques gros mots. Bah, c'est pas très très grave tout ça. Voilà.
Et est-ce que vous avez, Eva, un petit programme pour nos ados ?
Oui, alors j'ai fait une grande découverte sur Netflix pour une série qui est intitulée On My Block et qui nous embarque dans un quartier chaud de Los Angeles. Alors quand je dis chaud, Mathieu, vous vous excitez pas, hein, je parle pas du quartier rouge d'Amsterdam. Non, ici, chaud, ça veut dire règlement de compte, passage à tabac, coup de feu et gang ultra violent. Mais c'est dans cette ambiance que nos ados, quatre ados, amis de longue date, s'apprêtent à entrer au lycée, non sans quelques conseils d'un des grands frères.
Le lycée, c'est le fondement du reste de vos vies. Parce qu'il faut pas se louper sur la première impression. L'impression qu'on donne, c'est qu'il faut y aller à fond, y mettre du cœur. Et surtout, n'entrez pas au lycée si vous n'avez pas d'appui. Il faut que vous vous serriez les coudes pour survivre. Piché. Une dernière chose, couchez pas avec Monse.
Alors vous allez commencer, je m'adresse à tous les adolescents qui nous écoutent, par la regarder en version originale, c'est-à-dire en anglais, ça vous permettra de réviser quelques bases de l'anglais. Et puis surtout, vous allez découvrir comment le lycée peut être l'ultime solution pour espérer sortir de son quartier, ça c'est le message. La série ensuite, elle est moins sérieuse que ce point de départ énoncé, hein. C'est une série pour ados, avec son lot d'humour, d'histoire d'amour, quelques caricatures, mais toujours au service du rire, avec par exemple le jeune homme obligé de faire du foot pour faire plaisir à papa, alors qu'il préfère largement les salles de la bibliothèque, un autre qui rêve d'avoir une chambre pour lui tout seul et qui se retrouve à dormir avec sa grand-mère. On dirait qu'elle est sortie tout droit du Buena Vista Social Club. Ou encore Monzi, donc l'héroïne de la série, dont le corps est en pleine métamorphose, reluqué par les sales types des gangs. Mais au-delà du côté divertissant, et c'est pour ça que je vous la conseille, c'est que la série, elle évoque avec justesse cette période, vous savez, la fin de l'adolescence, pendant laquelle quand même faire un choix est une constante, voire un problème existentiel, et le tout... pour cette série, en l'occurrence, dans un contexte social violent et défavorisé. La troisième saison de On My Block vient d'être mise en ligne et je vous la recommande vivement, c'est à voir sur Netflix. 3 saisons, vous avez un peu de temps devant vous comme ça. Voilà, et les parents peuvent regarder, hein, y a pas de problème. Hein.
Qu'est-ce que c'est un bloc en anglais, Eva ?
C'est un secteur. Vous avez la traduction aussi chez les Québécois. Nos amis Québécois, ils ont appelé ça « Dans mon secteur », la série.
Dans mon secteur.
Ouais.
Merci Eva pour tous ces conseils qui ravira les enfants, les ados et surtout leurs parents qui pourront bosser un peu.
Europe 1.
L'âme humaine sortira-t-elle grandie de l'épreuve que le destin nous envoie ? Pas sûr. Quand on voit en tout cas le faible niveau de solidarité qui existait entre les journalistes de cette rédac avant la pandémie.
La présidente de la CDU a décidé de claquer la porte finalement. Hélène Kohl, elle démissionne.
Oui, la Saroise Annegret Kramp-Karrenbauer, élue à la...
Je lui ai laissé... prononcer le nom.
Il y a peu de chances que cette solidarité augmente durant la pandémie. C'est pourquoi nous avons décidé que l'Équipée Sauvage, la compétition des meilleurs journalistes d'Europe 1, continuerait même pendant le confinement. Deux journalistes vont nous rejoindre. Restez avec nous.
16h, 18h, l'Équipée Sauvage sur Europe 1. L'Équipée Sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Nous y sommes. Depuis hier, la France est passée au confinement à l'italienne. Un confinement maximum. Chacun chez soi et Édouard Philippe pour tous. Reste à croiser les doigts et à écouter l'Équipée Sauvage pour décompresser, entretenir vos zygomatiques tout en tonifiant vos neurones avec les plus beaux esprits de la rédaction d'Europe 1 qui s'affrontent au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui qui vous a offert la chronique la plus intéressante ou, vu la situation, la plus utile. Deux nouveaux compétiteurs vont nous rejoindre. Évidemment, on reste connecté à l'actu en temps réel. Eva surveille Twitter pour nous. Oui, Eva, on vous écoute.
C'est les sommes, il n'y a plus personne sur Twitter. Ce qui reste, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Non, en plus, regarde comment ils écrivent pain de mie. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
Attends, pandémie, c'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie.
Et oui, avec des professionnels comme nous, vous êtes entre de bonnes mains, les amis.
Europe 1,
16h, 18h, l'Équipée Sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'Équipée Sauvage spéciale humour confiné, puisqu'en effet, à la faveur des événements et Europe 1 ayant choisi de respecter scrupuleusement les nouvelles consignes gouvernementales, je vous accueille cet après-midi chez moi. D'où la possibilité que nous soyons interrompus à tout moment par le miaulement de mon chat, Miam, ou la trompette en plastique de mon fils, qui n'est pas loin non plus. Hop, oui, oui. J'ajoute, car vous avez été nombreux à me poser la question sur mon compte Instagram Mathieu Noël très officiel, qu'effectivement pour des raisons évidentes de sécurité, vu le nombre de rencarts qu'elle a eu dernièrement via le site de rencontre coquino-culinaire Marmite Love, Eva Rock n'est pas chez moi, conformément aux recommandations des scientifiques. Elle a été confinée en studio. Tout va bien, Eva ?
Pour l'instant, tout va bien. Mais c'est vrai que je suis en studio.
Mais oui. Votre rôle est plus décisif que jamais, Eva, en ces temps de confinement, puisque vous nous direz ce qu'on regarde sur les écrans pour échapper un peu au refrain angoissant des chaînes info.
Ah ouais, mais clairement, j'ai trouvé deux contenus que vous allez pouvoir retrouver très facilement pour les parents, pour les grands cette fois-ci.
Vous le savez, malgré la situation et même si chaque journaliste est désormais en ligne de chez lui, la compétition continue. À l'issue de cette émission, un seul d'entre eux sera élu chroniqueur du jour. Je vous présente nos deux ultimes concurrents. En se rendant à son Franprix dans les rues désertes, le premier s'est pris ce matin pour Will Smith dans Je suis une légende, sauf qu'il n'était pas à New York, mais à Malakoff. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Un point sur la situation des Malakoffiottes.
Les Malakoffiottes vous embrassent, Mathieu, tout va bien ici.
Ah bah pas trop près, hein.
Pas trop près, ouais.
Alors Jean-Philippe, en attendant que l'Institut Pasteur ou les Ricains nous sortent un vaccin contre le coronavirus, vous misez-vous sur la musicothérapie?
Oui, j'ai regardé ma discothèque parce que, comme toutes les personnes âgées, Mathieu, j'ai une discothèque et je me suis demandé quelle musique pourrait mettre un peu de paillettes, un peu de soleil, un peu de vagues dans nos vies, et j'ai pensé aux Beach Boys.
Ah,
et j'espère
oui.
Que ça vous fera du bien.
Mais oui.
Oh, ça va nous faire beaucoup de bien. Votre adversaire du jour, Jean-Philippe, est également par ligne. Ne vous fiez pas à son statut d'intérimaire, elle est redoutable. En ces temps d'incertitude économique où notre patron Arnaud Lagardère pourrait être amené à couper dans les effectifs, elle multiplie les petits messages discrets à son attention.
Il est fort, ce président, plus que son équipe.
Oui, bah doucement. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes l'éditorialiste sport d'Europe 1, c'est effectivement discret. Et il faut croire qu'à force de fréquenter Anne Le Gall, notre Madame Bonheur, cette dernière a déteint sur vous, puisque Virginie, vous faites partie des 29 personnes dans le monde, dont 28 membres du CIO, à croire encore que les JO de Tokyo se tiendront cet été. Est-ce que vous cultivez des plantes illégales chez vous, Virginie ?
Je crois que c'est la seule solution, là. Non, c'est plutôt le système D dont je vais vous parler, la façon dont les sportifs continuent à s'entraîner, en tout cas essayent de continuer à s'entraîner, notamment pour les Jeux Olympiques, tout en sachant qu'effectivement, ils n'ont aucune idée de si ces Jeux Olympiques auront lieu ou pas.
Alors, conseil pour athlètes en détresse ou les Beach Boys en intraveineuse pour lutter contre le coronavirus, un traitement déconseillé, je le précise, par le ministère de la Santé. Quel sujet vous plaira le plus? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne non pas vers notre invité, on n'en a plus, mais vers vous, chers auditeurs. Comment vivez-vous cette première journée de confinement à l'italienne? Vous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Eva Rock, eva.rock@europe1.fr ou sur son profil Marmitlove, Soka69. Voilà. Elle a pas mal de temps pour vous répondre en ce moment.
Salut la bande de l'équipe sauvage, c'est Fred de Massy dans l'Essonne. Eh ben écoutez, moi je suis obligé de rester chez moi puisque j'ai une maladie qui m'oblige à être confiné en un seul mot.
Bonjour patron, bonjour les équipiers. Je passe le temps avec les séries qui sont conseillées par Eva, les livres de Nicolas Caro. Et quand vraiment tout ça ne suffit pas, je passe au compil des meilleurs sketchs d'Axel de Tarlet.
Bonjour Eva, bonjour Mathieu, bonjour à toute l'équipe. Aujourd'hui, je vais vous donner mon témoignage pour le confinement. Allez nourrir nos chevaux qui sont seuls dans la forêt. Nous en profiterons pour jouer et pique-niquer sur place. Sans oublier l'essentiel, le travail scolaire. En Vendée, uniquement 9 cas de coronavirus, dont un ici même dans ma ville. Mais les gens n'ont pas peur, car nous avons vu beaucoup de monde en promenade. À la Tranche-sur-Mer, pour Europe 1, c'était Maréline, 11 ans.
Ce dernier témoignage me remplit d'espoir. Oui. En revanche, celui juste avant, ça sent quand même vraiment la fin du monde quand quelqu'un nous déclare qu'il va écouter la compile des meilleurs sketchs d'Axel de Tarlet.
Mais c'est une
ça,
star.
C'est quand même, c'est une, quand même star, une réflexion Mathieu. Apocalyptique.
Vous avez, vous avez de la concurrence, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, il faut ça, l'accepter. Hein. En tout cas, vous continuez à nous envoyer vos petits messages audio avec l'application Dictaphone de votre smartphone. Vous nous faites quelques secondes et puis vous nous envoyez ça sur, donc effectivement, mon adresse mail eva.rock@europe1.fr et vous oubliez Soka69 évidemment.
On fait un mini point confinement entre nous. Oui. Virginie Fulpin, je crois savoir, vous avez des enfants. Comment ça se passe le télétravail? Vous réussissez à travailler malgré tout?
Bah, j'ai bloqué la porte, en fait, pour être à peu près sûre de ne pas être interrompue. Mais oui, c'est un petit peu compliqué, mais comme tout le monde, quoi, on y arrive, on jongle, on va dire. Et puis c'est vrai que de temps en temps, un petit dessin animé, ça calme.
Oui. Doit-on interrompre l'équipe et sauvage comme une vulgaire Ligue 1 de foot? Nos journalistes doivent-ils cesser de se foutre sur la gueule au nom de l'Union sacré? Je ne le crois pas. L'équipe est sauvage par téléphone continue sur Europe.
Europe 1.
Il y a deux manières de vivre le confinement. Soit l'œil rivé aux chaînes info, tremblant à chaque nouvelle déclaration d'Olivier Faure, soit en écoutant les Beach Boys, en passant l'aspirateur nu dans son salon, à l'instar de Jean-Philippe Ballas, qui, pour sauvegarder la convivialité de notre émission, nous a proposé d'installer un Skype permanent entre les membres de l'équipe sauvage afin de partager chaque moment de notre journée.
On est bien là tous ensemble sous la douche?
Oui, oui, on verra Jean-Philippe, on verra. Dans un premier temps, vous nous expliquez en quoi le son des Beach Boys est l'antidote ultime au climat anxiogène actuel. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue, même en télétravail. C'est depuis mon salon que je m'adresse à vous cet après-midi, chers auditeurs. D'abord, pour vous souhaiter bon courage, notre président l'a dit hier, nous sommes en guerre. Mais j'ajouterai en guerre sans ces rapprochements humains qui permettent d'habitude d'adoucir un peu la guerre. En effet, à l'heure de la distanciation sociale, on ne peut même plus dire...
Bon, imaginons, c'est une supposition, hein. Mais imaginons que les secours viennent pas. Bah, je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens.
Voilà. Et non, surtout pas, impossible de profiter de nos sens, il ne nous reste pas beaucoup d'activités récréatives pour tromper l'ennui de ces longues journées de confinement. Une lueur d'espoir néanmoins, si l'Institut Pasteur n'a pas encore de vaccin contre le Covid-19, l'Institut Ballas, lui, propose un premier traitement à base de Beach Boys, c'est ça Jean-Philippe?
Oui, et les amis, on va faire comme s'il y avait plus de confinement, on va mettre les planches à l'arrière du pick-up, on file tout droit sur une plage de Californie. Et évidemment, on met la musique à fond. Bon, évidemment, vous avez tous reconnu les Beach Boys. Alors, les Beach Boys, c'est un petit groupe qui voit le jour dans la banlieue de Los Angeles. On est au début des années 60. Et quand on regarde les pochettes à l'époque, bon, on se dit raisonnablement qu'on a affaire à des petits blancs-becs souriants, plutôt bien peignés. Ils ont des jolies chemisettes, d'ailleurs, qui vont faire fureur, avec des couleurs très chamarrées, très chatoyantes. Les Beach Boys, les garçons de la plage, donc en français, qui mettent, alors c'est assez amusant qu'on va regarder justement leur disque, qui mettent le mot surf quasiment dans tous les titres de leurs chansons. Vous allez me dire que ça vole pas très haut, et pourtant, on va se méfier des apparences, on va aller voir un peu au-delà, parce que je vous parle d'un groupe qui à l'époque se tire quand même la bourre avec les Beatles,
oui.
Carrément, on y reviendra, oui, un groupe qui a marqué des générations, notamment avec cette fameuse signature vocale, les harmonies des Beach Boys. Écoutez. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, get around, round, round, I get around. Et alors, derrière ces harmonies, il y a un homme, c'est la tour de contrôle du groupe des Beach Boys, et cet homme, c'est Brian Wilson. Alors, à l'époque, c'est un jeune type d'une vingtaine d'années. Il est assez timide, il est un peu rondouillard, il est aussi un peu dépressif, faut le dire. Mais il se transforme alors en tornade, littéralement, dès qu'il est en studio. Il peut rester des heures, il peut rester des nuits entières à prendre tous les instruments, à travailler tous les arrangements, à tel point qu'il va même laisser les autres Beach Boys partir en tournée. Sans lui, ils vont faire des concerts loin. Lui, il s'en fiche parce que ce qui l'intéresse, c'est de rester avec ses magnétos. Et alors, pour bien comprendre toute la finesse de ses arrangements à Brian Wilson, je vous propose un petit test. A cappella, on va retirer tous les instruments. Je vous ai juste laissé les voix sur le titre Californian Girls. Écoutez bien. I wish they all could be California girls. I wish they all could be California. Est-ce que c'est pas mal comme expérience?
Bah, c'est plus que pas mal.
Ah ouais.
On réalise grâce à votre petit arrangement là que c'est extrêmement complexe en fait les Beach Boys. Voilà.
Et quand je vous dis que les Beach Boys se tirent la bourre avec les Beatles, il faut dire que c'est une gentille obsession de Brian Wilson en ce temps-là. Brian Wilson, l'Américain, qui a bien repéré à l'époque le talent des Anglais de Liverpool, des Anglais qui le suivent de près également. D'ailleurs aujourd'hui encore, Paul McCartney,
votre pote,
affirme que
ouais.
Voilà, mon grand copain Paul. Il affirme que l'extrait qu'on va entendre maintenant, ce titre est l'une des plus belles chansons d'amour au monde. Oui, c'est Sir Paul qui le dit, et ça s'appelle God Only Knows. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. Alors, vous avez remarqué peut-être, si vous parlez anglais, c'est une chanson qui commence par « Je ne t'aimerai peut-être pas pour toujours ». Je trouve ça assez fort quand même pour une chanson d'amour. Alors, sachez que, aussi que cette chanson, elle est sur l'album Pet Sounds, qui était sorti en 66, album devenu mythique aujourd'hui, album des Beach Boys évidemment, et qui a mis la pression aux Beatles. D'ailleurs, un an plus tard, les Beatles, ils ont sorti « Sgt. Pepper », un peu comme une réponse.
Il y avait de la compète à l'époque.
C'est,
hein.
Ouais, c'est Brian Wilson du coup qui est un petit peu déprimé. Alors il est toujours vivant aujourd'hui, il a 77 ans, il a une santé assez fragile, mais il lui arrive encore de faire des concerts, il parle très peu. Je vous conseille d'ailleurs son autobiographie qui est sortie, I am Brian Wilson, je suis Brian Wilson. C'est absolument magnifique, et puis continuez à écouter les Beach Boys à fond, c'est le meilleur antidépresseur au monde.
Et j'ai une question, Jean-Philippe, on sait que les Beatles, ils ont eu 10 ans de grande carrière, hein. Vraiment c'était très condensé, c'est un temps assez court, et les Beach Boys ça a été plus long ou c'est aussi quelques années?
Alors, c'est une bonne question. À la fin des années 60, quand on commence à avoir le mouvement hippie, alors là, les Beach Boys sont plus du tout à la mode. Ils vont tomber un peu dans l'oubli. Alors, ils ont essayé de faire plusieurs comebacks au fil des années. Notamment, je crois que la dernière fois, c'était il y a 20 ans. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, ils sont séparés. Il y a des petites batailles juridiques régulières pour l'utilisation du mot Beach Boys. Mais en tout cas, si
ça sera comme nous quand on aura fini l'équipée sauvage. Ouais. Eva m'attaquera. Voilà. Ouais. Elle aura déposé l'équipée, moi sauvage.
Ouais, c'est ça.
Ça sera comme ça. C'est ça les grands groupes de rock.
Ouais.
Carrément. Vous savez qu'on vous appelle Lennon et McCartney. Ouais.
Je me doute bien. Ça ne m'étonne pas du tout. Avec God Only Knows, vous m'avez donné tellement envie que j'ai décidé de bousculer la programmation musicale de cette émission. Le prochain titre qu'on devait écouter tout à l'heure, c'était Daniel Potter, Bad Day. Est-ce que c'est vraiment le jour pour écouter Bad Day?
Non,
on va plutôt écouter God Only Knows tout à l'heure. Merci Jean-Philippe, belle chronique,
bravo.
Feel Good. Est-ce que vous savez ce que je vous dis?
On va tous aller prendre la douche.
Non, bonne chance, tout simplement. Bonne chance pour le vote tout à l'heure, Jean-Philippe. Ne nous y trompons pas, le confinement, aussi rieur soit-il dans les premiers temps, risque de ne pas être une partie de plaisir. Sartre disait, l'enfer c'est les autres, ce qui dans le couple équivaut à l'enfer c'est l'autre. Maintenant que vous allez être coincé avec elle ou lui 24 heures sur 24, tous ces petits défauts que vous lui pardonniez avant vont devenir intolérables. Et dès demain matin au petit-déj, je vous prédis le pire.
Qu'est-ce que tu regardes là?
Rien.
T'es en train de m'épiler là, regardez, si je fous pas des miettes ou du beurre dans la confiture, c'est chiant là, arrête, ça va.
Ça fait 7 ans que tu me fous du beurre dans la confiture.
On se calme, on se calme. calme pour éviter que votre couple explose. Un conseil, choisissez bien ce que vous allez regarder à la télé sur les écrans ce soir. Les conseils d'Eva arrivent.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures jadis utiles, désormais indispensables pour décompresser en ces temps de confinement. Courage d'ailleurs à vous, parents qui nous écoutez et qui avez commencé l'école à la maison pour vos enfants. Alors évidemment, on ne s'improvise pas enseignant, mais je suis sûr qu'avec la malice qui vous caractérise, vous trouvez des petites méthodes.
On retient beaucoup mieux une information quand elle est étonnante ou amusante. Par exemple en histoire, le jour où Hitler a envahi la Pologne, il avait une diarrhée épouvantable. Non, c'est pas vrai, mais c'est ce qui fait que tu t'en rappelleras.
Courage à vous, c'est pas con comme idée. Mais entre deux cours magistraux sur les pépins gastriques d'Hitler, n'oubliez pas de vous faire plaisir en vous détendant devant une bonne série ou un bon film. Eva, vous êtes notre expert média. Votre rôle est désormais essentiel à la survie de la nation. Vous êtes à la France de 2020, ce que le général de Gaulle fut à celle de 1940. Vous êtes la femme qui a dit non, non au programme pourri. Eva, nous écoutons votre chronique.
Ah bah
17
voilà.
minutes de gagné.
Ça, c'est un long de chronique, vous voyez. Là, vous
pour
faites
une fois,
plaisir.
Je me fous pas de
votre gueule. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup, Mathieu. Allez, deux programmes encore à vous conseiller. Un à regarder en famille et puis une série un peu vintage, mais toujours aussi sympa. Ce soir sur France 2 à 21h05, vous pouvez tous découvrir en famille un nouveau numéro du magazine Sur le Front qui est présenté par Hugo Clément. Pédagogique, instructif, esthétique. C'est la deuxième émission de cette série. Et vous allez embarquer au milieu des glaciers. Alors, on va partir en Norvège, mais aussi au Pérou et dans les Alpes. Et puis, il y a une des séquences très fortes de l'émission. C'est le sauvetage de Mike Horn. Vous savez, l'aventurier de l'extrême qu'on adore.
Il a été filmé, ce sauvetage ?
Oui, il a été filmé. On n'avait pas encore vu les images. Il est avec son coéquipier. Ils avaient prévu de traverser l'Arctique en 2 mois. Mais la fragilité de la banquise et les conditions climatiques ont eu raison d'eux. Et ils ont failli y laisser leur vie.
Énième coup du sort. Il va enregistrer Mike en train de tomber dans l'océan Arctique. L'eau est à 2 degrés. On distingue ses skis. Borgé se précipite vers lui pour l'aider à s'extirper et monter une tente en urgence.
Alors ils vont monter une tente en urgence et puis avec un petit réchaud à gaz, il va essayer de réchauffer son corps, Mike Horn. Il a vu de la pluie en Arctique, ils ont senti surtout des températures qui variaient de moins 38 à plus 2 degrés. La banquise qui ne faisait que 5 cm d'épaisseur contre 5 mètres habituellement. Alors autant vous dire que le réchauffement climatique, c'est pas une vue de l'esprit. Mike Horn et son coéquipier s'en sont sortis. Les retrouvailles avec leur équipe de sauveteurs et avec les filles de Mike, qui sont d'ailleurs extrêmement émouvantes. Mais la situation des glaciers, elle est dramatique comme le prouve l'émission. Alors je précise toutefois qu'au-delà du message inquiétant, la force du documentaire, c'est aussi de mettre en avant des initiatives positives et puis des portraits de gens, des anonymes qui se battent au quotidien pour trouver des solutions. C'est à voir sur France 2, donc avec vos enfants, pour prendre conscience de l'état de la planète. Et puis, pour les plus jeunes d'ailleurs, il y a des contenus inédits de ce documentaire avec d'autres images qui sont mises en ligne sur le site slash.tv. Je vous recommande grandement ces programmes conçus uniquement pour le web.
Pas de série aujourd'hui, ma chère Eva.
Moi, vous me connaissez, mais si, une série très très vintage. Vous étiez niais ou pas, Mathieu Noël ?
J'étais niais, oui, je suis toujours niais aujourd'hui.
Oui, vous êtes niais. Est-ce que vous étiez niais ?
J'étais particulièrement niais en 1997, oui. Effectivement, ouais. J'étais même ado, Eva.
Mais oui.
Ne me rajeunissez pas.
Et est-ce que vous regardiez cette série à l'époque ? Si vous
Je ne regardais pas Ali McBeal.
Eh ouais, exactement.
Non, je ne regardais pas Ali McBeal. Je regardais Salut les musclés.
Ah bah d'accord.
Tout simplement.
Okay. Ah bah
je regardais uniquement les séries les plus qualitatives.
C'est là où on voit la différence d'âge entre nous, parce que moi, en 1997, je regardais un petit bout de femme trentenaire qui a un grand pouvoir d'imagination. C'est un euphémisme. Elle s'appelle Ali McBeal. Elle est avocate. Elle adore boire un verre de vin après le boulot avec ses collègues. Ça, voilà.
Elle vous ressemble tellement que forcément, c'est une forme de mimétisme.
Ah, exactement. Série à succès avec dans le rôle de cette héroïne Calista Flockhart. Les 5 saisons sont disponibles, figurez-vous, sur Amazon. Je suis retombée dessus, non sans une certaine nostalgie. Alors, ça a vieilli bien évidemment, mais l'humour, je trouve, est toujours aussi efficace. Il y a un petit ton grivois qui est assez étonnant. Et puis, il y a ce côté, vous savez, je t'embarque dans les méandres psychologiques des personnages. Ça donne une patte particulière à cette série. Et puis alors, surtout, Mathieu, et j'ai pensé à vous. Autre motif de réjouissance, c'est la musique. La bande originale de la série est un bijou, avec notamment un titre qui illustre une danse des avocats dans les toilettes du bar où ils aiment se retrouver.
Oh Barry.
Ouais, oui.
Ça, c'est une musique aussi qu'on peut utiliser chez soi en ce moment pour trouver des activités récréatives.
Non, mais franchement, ça met de bonne humeur. Ça, les Beach Boys, on vous a trouvé les deux musiques antidéprimes, La Voix Chaude de Barry White. Alors, pour une des scènes mythiques de la série, vous allez le retrouver, vous verrez ça. Je vous fais gagner beaucoup, beaucoup de temps aujourd'hui parce qu'à raison d'une vingtaine d'épisodes de 43 minutes par saison.
Vous avez fait le calcul ?
Voilà, non, j'ai pas compté, mais il y a 5 saisons. Il y a entre 21 et 23 épisodes de 43 minutes. Hein, voilà, vous êtes tranquille pour un bon moment. Mais surtout, vous pensez quand même à faire autre chose que de regarder les écrans. Hein. Enfin, je sais pas que je me tire une balle dans le pied, mais vous pouvez faire d'autres activités. Vous pouvez lire,
en écoutant
écouter
Barry
la
White,
musique, voilà, par exemple, nous écouter. Puis après, vous remettez un petit peu devant les écrans. C'est une série que vous pouvez regarder avec vos ados parce que franchement, c'est très très sympa. Et c'est pas voilà, on parle un peu de sexe, mais c'est pas olé olé quoi. Voilà. Voyez.
C'est pas olé olé.
Non, mais vous serez pas choqués.
Comme cette série, vous êtes vintage, Eva.
Oui, je suis vintage, c'est ça.
En temps normal, déjà, vous êtes tout à fait indispensable à notre pays, mais Eva, par les temps qui courent, vraiment, vraiment, vous êtes incontournable. Merci.
Europe 1.
C'est clairement la partie de notre corps qui va sortir perdante des semaines de confinement qui s'annoncent.
Les muscles. Ils sont à l'homme ce que les pistons sont à l'automobile.
Ils risquent de fondre à vue d'œil si on y prend garde, surtout avec les 30 kilos de pâtes qu'on a stockés. Comment sauver nos muscles d'une bérésina écrite d'avance? Notre expert sport Virginie Fulpin nous raconte comment les athlètes de haut niveau s'entretiennent, sachant que les Jeux Olympiques démarrent normalement dans 4 mois.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h-18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage spécial confinement en duplex de chez moi. Ah oui, pardon, ne faites pas attention, c'est mon chat. Tais-toi, Miam.
Je te prie de faire très attention, je ne prends pas la pilule.
Moi, pardon, faites très attention, ça, je vous prie de m'excuser, ça c'est ma maîtresse. Bref, en ces temps incertains où nous vivons, disons-le, la boule au ventre, calfeutrée derrière nos fenêtres à épier les voisins pour voir s'ils ne commenceraient pas des fois à tousser, son rire légendaire et communicatif va nous faire du bien.
Ben justement, peut-être qu'on pourrait s'y mettre.
Bonjour Virginie Fulpin. Attention aux gouttelettes quand vous riez comme Patrick Sébastien quand même. Hein. Virginie, vous êtes notre expert sport. Aujourd'hui, vous faites partie de ces 0,0001% de la population qui croit encore que les JO de Tokyo vont se tenir comme prévu en juillet.
En tout cas, je vais faire semblant d'y croire, oui, parce que bon, il faut bien quand même qu'on se demande comment les sportifs font en ce moment. Bah, ils sont comme tout le monde, ils essaient de continuer à faire leur métier, mais bah, comme pour vous et moi, ça demande un petit peu d'imagination, un petit peu de patience. Il faut relativiser ce qu'on fait, se dire que l'urgence sanitaire est plus importante, évidemment. Bon, ils s'adaptent, hein, les sportifs. Des compétitions, il n'y en a plus de toute façon, tout est suspendu. Mais même s'entraîner, ça devient difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stades qui ont été fermés. L'INSEP, par exemple, a été fermé aussi. Et puis parce qu'on ne peut pas s'entraîner en groupe non plus. Hein. Seuls les entraînements individuels avec un coach sont autorisés. Donc c'est le système D qui prime. Alors il y en a qui
notamment pour les sports d'équipe, c'est foutu.
Je pense à Renaud Lavillenie. Ah, c'est foutu. Enfin, chacun continue en fait à s'entraîner dans son coin, mais évidemment ça n'est pas du tout la même chose. La plupart des clubs de foot notamment ont laissé tomber les entraînements collectifs puisqu'on a de toute façon plus le droit. Donc chacun dans son coin. Je parlais de Renaud Lavillenie parce que lui, vous savez, il a un sautoir de perche dans son jardin. En fait, c'était pas du tout pour l'occasion, hein. C'est un truc qu'il a installé il y a des années, mais là ben ça lui sert bien. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il s'est dit qu'il a rigolé un peu avec ça en disant que le télétravail, pour lui, c'était pas si compliqué, forcément. Et puis, il fait aussi pas mal de musculation, hein. C'est ce qui leur reste, en fait, aux sportifs. On travaille pas trop la technique, mais on se met à la muscu, à la préparation physique. Et puis, on court aussi. Alors, attention, hein, pas au milieu des rues, pas en groupe non plus, hein, seul, comme c'est préconisé. Et puis, les athlètes, ben, ils ont les mêmes problèmes aussi que vous et moi. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des enfants, d'autres qui s'organisent. Hein, ils s'organisent avec leur conjoint pour la garde pendant l'entraînement. Ils trouvent une nounou, ou sinon, ils s'entraînent avec les enfants, ce qui doit être
un enfant Un enfant de 15-20 kilos peut servir d'haltère, ça peut être intéressant à ce moment-là. Si on a deux enfants qui font à peu près le même poids, à peu près du même âge, un an chaque main, c'est une alternative à l'haltère.
Mais alors, vous parliez des Jeux Olympiques. Oui, c'est ce qui est assez ubuesque, c'est qu'en fait, la plupart de ces sportifs, ils s'entraînent pour les Jeux Olympiques. Alors qu'on ne sait pas si ces Jeux Olympiques auront lieu. Hein. Ces derniers temps, la discipline favorite du Comité International Olympique, c'était la méthode Coué. Hein. Vous inquiétez pas, il n'a jamais été question de reporter les JO. Ils auront bien lieu. On a entendu ça pendant des jours et des jours. Beaucoup moins quand même depuis une petite semaine. Hein, parce que la vérité, c'est qu'on ne sait absolument pas s'ils auront lieu ces Jeux. Ni nous, ni eux n'en ont la moindre idée. On a déjà du mal à savoir à quoi ressemblera la semaine prochaine. Alors ce qui se passera dans 4 mois, oui, franchement, on repassera. Le CIO a quand même convoqué une réunion de crise, hein, preuve qu'ils sont pas si sereins que ça, donc on va voir ce qui va en ressortir. À mon avis, pas grand-chose, ils vont juste faire un point là maintenant, écoutez, on en reparlera dans 2 mois, parce que c'est difficile de savoir là aujourd'hui. Mais les sportifs, eux, ils n'ont pas le choix, ils doivent se préparer en se disant que les Jeux Olympiques auront bien lieu, en faisant comme si. C'est pas si simple psychologiquement, hein, parce que l'entraînement, d'accord, on y arrive à peu près. Mais il y a encore beaucoup de sportifs qui ne sont pas qualifiés pour les Jeux, parce qu'il y a des tournois de qualification, notamment des tournois qui sont suspendus. Donc pour l'athlétisme, par exemple, il y a des minima à réaliser en compétition, c'est-à-dire un certain chrono à établir pour se qualifier, mais on peut pas établir ce chrono lors d'un entraînement, il faut que ce soit dans une compétition officielle. Il y en a pas de compétition officielle, donc comment on fait pour se qualifier? Ça, c'est notamment Kevin Mayer, hein, notre décathlète recordman du monde, qui se pose la question, parce que lui, il est pas encore qualifié, donc il se demande comment faire, en fait. Alors, Thomas Barr, le président du CIO, il s'entretient aujourd'hui avec les fédérations. Son idée, c'est d'assouplir les conditions de qualification. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour l'instant. Tout ça en attendant de savoir s'il y aura des JO en 2020. Mais bon, on n'en saura rien avant de longues semaines. Donc, pendant ce temps-là, on va continuer à s'entraîner aussi, nous, hein, pour ne pas ne faire que manger des pâtes, je pense.
Merci beaucoup, Virginie Fulpin. À l'heure de l'Union Sacrée, Jean-Philippe Ballas, un petit mot sur la chronique de votre rival.
Quelle blague.
Ça, en temps de guerre, c'est là qu'on voit la vraie nature des gens.
Europe 1.
Attention, ceci est un message à l'attention de tous les gourmands qui nous écoutent. Confinement commence dangereusement comme confiserie.
Oh putain,
afin de ne pas prendre 10 kilos en 2 semaines et afin que ceux d'entre vous qui ressemblent aujourd'hui à Cristiano Ronaldo au début de sa carrière ne ressemblent pas d'ici 15 jours à Demis Roussos à la fin de la sienne, il faut prendre ses précautions. Restez vigilants caloriquement. Pour ce faire, un expert vous prend en main. Olivier Pouls arrive avec Délice in Extremis, mais léger aujourd'hui. A tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1,
16h, 18h,
Mathieu Noël.
On est là, chez nous, mais on est là. Vous écoutez l'équipée sauvage, émission hybride à la frontière du journalisme et du divertissement. Un peu comme si Mireille Dumas présentait Interville. Sauf qu'à mon micro, les stars se livrent encore plus qu'à celui de Mireille. Les plus grandes vedettes sont venues me voir afin que je cautérise leurs plaies les plus secrètes. À l'instar de Cadmeyrade, qui en dépit d'un César et de son rôle dans Baron Noir, souffre encore de son image de pitre sur comédie, comme il nous l'expliquait le mois dernier.
Je ne serais jamais pris au sérieux à cause de tout ça. C'est ça. J'aurais voulu être un acteur un peu procès, à qui on ouvre la porte, voilà, là, rien du tout. Et merde, putain, j'ai été nominé au Emmy International Award, mon Dieu, nom de Dieu. J'ai été battu par Kenneth Branagh. Tout le monde s'en fout. Hé, Camoulox, hé, Manitas, ta bite, t'as un médiateur au bout du gland.
Des confessions à cœur ouvert, c'est ça aussi, l'équipée sauvage. Avec Eva, on voulait justement vous faire écouter ou réécouter l'interview de Gueluc, le dessinateur du chat. C'était le 8 novembre dernier. Philippe Gueluc, venez nous présenter un nouvel album du chat. Avec les années, le succès ne se dément pas. Philippe, vous préparez même une expo monumentale et itinérante sur 3 ans, avec 20 statues en bronze hautes de 3 mètres à l'effigie du chat.
Oui.
Comment est née une telle idée? Personnellement, je m'adore aussi, mais des statues de moi, j'ai pas eu l'idée.
Non, mais alors c'est pas des statues de moi. Elles sont de moi parce que je l'ai fait, mais elles ne sont pas de moi parce qu'elles ne me représentent pas.
Il faut le dire, vous êtes sculpteur aussi.
Oui, ça fait 25
ans. Vous commandez pas, vous ne faites pas livrer les statues, c'est vous qui les façonnez avec vos petites mains.
Alors si vous voulez, je ne suis pas à la fonderie, c'est pas moi qui verse le bronze en fusion dans les... Voilà. Mais je sculpte au départ à une taille de 50-60 cm en terre. Je travaille à 4 mains avec un autre sculpteur qui fait les finitions, qui est hyper doué, que je connais depuis 35 ans. Et donc, je représente le chat dans diverses scènes humoristiques, poétiques, surréalistes. Il y en a une d'ailleurs qui va être assez impressionnante, je crois. On est en train de faire couler donc ce chat de bronze de 2 mètres de haut, d'une tonne, et on va le lâcher depuis une grue sur une bagnole.
Mais
une
non.
Vraie bagnole. Lam, si on va être. Et je vais écrire en dessous, pour une fois, c'est une voiture qui s'est fait écraser par un chat. Bon. On va exposer l'ensemble.
Est-ce qu'il y a des produits dérivés avec le chat que vous refusez? Porte-clés, tasses, set de table, tout ça, ça existe. Est-ce qu'il y a des propositions que vous avez refusées? Des
oui.
croquettes pour chat, notamment, je ne sais pas.
Alors oui, j'ai refusé des contrats mirobolants avec des grandes marques que je ne peux pas citer. Mais je refuse aussi de l'alcool pour les enfants, voilà, les trucs comme ça. Enfin, et pourtant, c'est très aussi. Doux, hein, de l'alcool pour enfants, on peut oui. faire du 2-3 degrés.
Bien mais... sûr, ça pourrait passer finalement. Oui, on devrait quand même creuser l'idée, Philippe. Une proposition que vous n'avez pas refusée, et j'ai envie de dire heureusement pour l'histoire de la musique, c'est ce duo avec Malvira, une marionnette que vous aviez réalisée au cœur de cette période bénie où tout semblait possible, les années 80.
Allô ? Qui c'est ?
C'est moi, mon amour.
Qui ça, moi ?
Mais voyons, c'est Poupou ?
Quel Poupou ? Je connais pas de Poupou !
Tu as donc tout oublié. Je t'avais rencontré sur la plage de cette île, au large du Mexique, où nous courions nus, Kiki.
Mais où courions-nous nus, Poupou ?
Tu voulais écouter le Kourou-Koukou, Kiki.
Quel Kourou-Koukou, Poupou ?
Mais cet orchestre mexicain qui jouait sur la plage, souviens-toi.
Ah, ce joli tango, ce...
Sombrero. Le tango des amants, tango sombrero.
On va vous la mettre sur le site europe1.fr en entier parce que c'est un bijou, cette chanson Sombrero. Comment ça se fait qu'on la connaisse pas plus, qu'elle soit pas ressortie avec un remix techno, avec quelque chose, enfin.
Ah ben on devrait. Alors cette chanson, on l'a écrite avec Patrick Chaboux qui animait la marionnette Malvira et Philippe Lafontaine. Et on a fait ça un soir où on dînait à la maison. On était.
Vous aviez pas bu que la ceinture ce soir-là.
Absolument. On a truc. Mon fils qui avait 3 mois essayait de dormir à l'étage.
Et vous en dessous. Sombrero.
Et puis on a sorti ça. Et cette émission est devenue culte en Belgique. Elle était regardée par tout le monde, les enfants, les adolescents et les adultes. On était en liberté totale. La direction de la RTBF à l'époque ne nous regardait pas. C'était entre 5h30 et 6h. Ils étaient tous déjà ivres morts à l'apéritif. Et donc, on a pu, en direct et en truc, faire absolument tout ce qu'on voulait.
Vous ne vivez pas avec le chat. Vous avez une femme, une épouse depuis plus de 40 ans. Et vous avez vécu cette chose que certains remettent en cause. On pense que ce n'est pas possible. On pense que c'est que dans les films. Vous avez vécu le coup de foudre.
Oui, et il est permanent, c'est comme le coup d'état permanent de l'autre, le coup de foudre, je l'ai vécu, je me souviens très très bien de cet instant. J'étais comédien à l'époque et on m'engage pour tourner dans un court-métrage qui se fait à Zeebruges sur la côte belge. J'arrive le soir à la veille du tournage et on me présente la script. Elle se retourne, déjà de dos elle m'émeut et puis elle se retourne et là je suis foudroyé, littéralement. Son regard, son sourire, son physique aussi et puis sa voix. Et je me dis... instantanément, je pense que je viens de rencontrer la femme de ma vie.
Vous vous dites, ce que vous dites dans le livre, vous dites « je vous aime ». J'ai envie de lui dire « je vous aime, je veux vous faire l'amour toute la vie, je veux vous emmener avec moi ». C'est vraiment ce que vous avez dit ?
C'est ce que je sais, ce qui
vous
m'est passé.
Vous l'avez pas dit quand même.
Non, j'ai pas dit. Je la faisais rire, je déconnais avec toute l'équipe, etc. Elle était très cliente de mes vannes. Et puis je me retrouvais tous les soirs à dîner à côté d'elle. Et puis voilà, puis le jeu de la quête séduction a commencé. Et une semaine plus tard, elle est passée à la maison, à Bruxelles. Elle n'est plus jamais repartie.
Ça, c'est une belle histoire. Ouais, Roger.
Je voudrais savoir si ça n'est arrivé qu'une fois dans votre vie.
Alors, attention à ce que vous allez dire, parce que votre femme écoute. Hein.
Non, bien sûr, mais elle le sait. Mais j'ai eu une vie assez tumultueuse. Enfin, on s'est rencontrés, on avait 22-23 ans, mais on était dans une époque de liberté sexuelle. Donc, elle, de son côté, moi, de mon côté, moi, j'ai beaucoup vécu. D'ailleurs, on sortait dans Bruxelles et je croisais des ailes. Elle s'est dit, mais t'as sauté tout Bruxelles. Bon, mais non, oui, j'ai été follement amoureux. Souvent et parfois déçu. Et puis là, ça a été la conjonction de tout. On est passionnés l'un par l'autre depuis 43 ans et ça ne fait qu'augmenter.
Europe 1.
Vous allez voir que ça va devenir très vite un point de friction entre vous et vos proches confinés avec vous. La question du dîner. En effet, si vous êtes aussi créatifs qu'Eva et moi, vos proches risquent de vite tirer la gueule.
Je peux vous proposer du riz ou des pâtes. Et comme accompagnement, on n'a même pas de beurre, mais de l'huile.
Ouh ! Pour ne pas vous entretuer trop vite, écoutez plutôt Délices in Extremis. Et oui, c'est nous, ça y va. La recette facile et goûteuse pour vous changer des pâtes à l'huile. Olivier Pouls arrive à la rescousse juste après Alain Souchon.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage spécial confinement, l'émission qui continue d'entretenir vos zygomatiques tout en stimulant vos neurones et en chérissant vos précieuses papilles qui ne doivent pas se résigner aux pâtes à l'huile, voire, pratique que je tiens de mes années estudiantines, les pâtes à la mayo.
Je crois que je vais vomir.
Non, c'est super bon. Et à l'heure de retrouver Olivier Pouls en duplex de sa longère bourguignonne, j'aimerais qu'on s'offre 30 secondes de nostalgie, les amis.
qu'on se replonge l'espace d'un instant dans cette insouciance potache qui était la nôtre il y a encore à peine 10 jours. Une époque désormais révolue où un simple mot pouvait nous faire basculer dans le fou rire.
Vous allez demander, vous vous mettez à genoux devant votre boucher, vous lui demandez qu'il vous donne la surprise. C'est un tout petit muscle qui est à l'avant de l'animal.
Là, j'ai peur, ça dépend de votre boucher, mais j'ai peur que, qu'il se passe autre chose si vous mettez à genoux et que vous demandez une surprise. Peu avec cette légèreté d'antan, on retrouve notre cordon bleu adoré. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour les amis. Ah oui, quel bon temps, je me rappelle. Ouais. Le moment où on allait venir, où on allait voir son boucher, il avait de la viande, il vous la vendait, et on taillait une petite bavette.
C'est marrant parce que vous ne trouvez pas qu'on a l'impression que c'était il y a super longtemps.
Ah mais oui, clairement.
On a l'impression que c'était une autre époque, alors clairement. Qu'on parle d'il y a 10 jours, hein, ouais. voire une semaine.
Limite, vous me manquez déjà, ce qui est quand même assez exceptionnel.
Oui, parce qu'on rappelle à nos auditeurs que là, malgré la qualité sonore qui normalement est bonne, oui. Eva est en studio à Paris, moi dans mon appartement chez moi à Paris, et Olivier Pouls, alors lui, dans son château bourguignon. Alors Olivier, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous conseillez avec ce qu'on a dans les placards?
Écoutez, magie de la technologie, effectivement, nous sommes là réunis. Et j'ai décidé de vous sauver d'un drame. Car, voyez-vous, nous sommes mardi. Vous avez peut-être dit ce matin en vous levant à votre famille, mardi, c'est ravioli. Ils s'attendent à voir arriver quelques belles boîtes, vous savez, de
oh
ces
non.
produits magiques.
Oh, évidemment.
Et là, manque de peau, vous vous êtes évidemment déplacé le premier dans votre supermarché préféré. Rayon vide, tout pillé, plus même une petite boîte de raviolis Buitoni à se mettre sous la main. Donc je me suis dit, on va les faire soi-même, ces raviolis.
Faire des raviolis, c'est vrai qu'on a le temps.
Oui, ça va occuper la première ville.
Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire, franchement?
Non, rien.
D'autant qu'il ne faut pas tellement d'ingrédients qu'un... Avec un peu de chance, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre frigo, vous allez pouvoir vous débrouiller. Alors, pour une petite famille, hein, tranquillement, il vous faut 4 œufs, il vous faut 400 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une petite pincée de sel. Ça, c'est pour faire la pâte. Alors, on réunit tout ça, on mélange les œufs, on rajoute la farine, on pétrit bien, la petite cuillère d'huile d'olive, la pincée de sel, et puis on pétrit bien avec la main. Alors, si on a un robot, on le met dans le robot pendant 5-6 minutes. Il faut que la pâte devienne relativement élastique et qu'elle sèche bien. Vous allez ensuite la laisser reposer pendant une heure, la diviser en deux parties, et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler cette pâte de manière très fine pour constituer les raviolis. Alors, si vous voyez que ça colle un petit peu, vous n'hésitez pas à vous rajouter encore de la farine. Il faut vraiment que la pâte soit très, très sèche. Et puis, à côté de ça, vous allez faire une petite farce pour vos raviolis. Et puis là, bah, c'est au bon cœur du frigo, j'ai envie de dire.
Ah oui.
Ben oui, s'il vous reste un petit peu de viande froide, il vous reste peut-être un petit oignon, il vous reste peut-être un peu de jambon, un peu de fromage, quelques légumes.
En fait, la farce, c'est des restes,
très
c'est
finement.
Ça
ben, la farce, c'est exactement, c'est des restes. Et on peut vraiment y mettre ce qu'on veut. Alors moi, par exemple, dans mon frigo, j'ai un petit morceau de porc froid qui me reste de mon dîner d'hier soir.
Ça
il me reste un oignon haché. Si, je vous jure, ben, le morceau
c'est vrai
beau, j'en ai gardé un peu. un oignon haché. Quelques herbes, il me reste un petit peu de fromage, un peu de parmesan, je vais mélanger tout ça. Je vais en faire des petits tas que je vais poser sur la pâte que j'aurai au préalablement emporte-piécé, c'est-à-dire découpé de manière ronde, mais ça on peut le faire avec un verre, hein, voyez-vous, tout simplement, de manière à avoir des jolies formes. Un petit tas de farce au milieu, on repose évidemment une deuxième partie de pâte par-dessus et on colle avec un tout petit peu d'eau qu'on aura mis sur les bords de la pâte avec un pinceau, avec un doigt, qu'on aura évidemment lavé, bien évidemment, juste avant. Et puis, on va presser, voilà, tout simplement. Et on va fermer nos raviolis. Et comme c'est de la pâte fraîche, ça cuit très, très vite. Ça cuit 1 minute, 32 minutes dans un grand volume d'eau bouillante. Et à côté de ça, ben, on a peut-être une petite boîte de sauce tomate dans laquelle on rajoutera une goutte de crème, quelques herbes. Et ça nous fera la sauce pour ces raviolis qui, à mon avis, sont meilleurs que ceux que vous avez ratés en boîte parce qu'il n'y en avait plus.
Clairement.
Eh bien voilà, vous savez tout. Grâce à Olivier Pouls, la cuisine reste un plaisir, même en confinement. Olivier Pouls, qu'on retrouvera bientôt tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
C'était Délice in extremis avec les fromages Hermitage. Rajoutez de la convivialité à votre recette. Les fromages Hermitage, du goût, du partage. Europe 1.
C'était un bonheur de vous accueillir chez moi cet après-midi pour une édition homemade de l'équipe et sauvage. Je vais bientôt devoir vous laisser car j'entends déjà depuis la chambre ma compagne s'exclamer.
Viens me faire l'amour encore, une fois ne suffit pas, viens et reprends-moi.
Oui, à moins, à moins que ça soit juste la radio qui diffuse un tube injustement oublié de Michel Richard. En tout cas, confinement ou pas, il n'y aura comme d'habitude qu'un seul gagnant dans l'équipe sauvage. Qui sera élu chroniqueur du jour? À tout de suite pour la grande finale. Oui, oui, bah Michel, une minute, j'arrive.
16h, 18h, l'équipe sauvage sur Europe 1. L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
L'équipe sauvage spéciale confinement se termine. Noter et éliminer les journalistes d'Europe 1, longtemps ça n'a été qu'un jeu. Et lorsque je disais qu'à la fin il n'en resterait qu'un, c'était une image. Désormais, avec le Covid-19, il risque bel et bien de n'en rester qu'un. Alors, le vote darwinien qui va suivre est plus important que jamais. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui se verra livrer par Colissimo la couronne de confineur du jour? C'est l'heure du quitte ou double. Chaque journaliste confiné a 10 secondes pour défendre son sujet. Virginie Fulpin, pourquoi devrions-nous voter pour vous aujourd'hui?
En fait, je ne sais pas si c'est le confinement qui me fait ça, mais je vais être beaucoup plus fair-play que d'habitude. Je crois que je vais voter pour Jean-Philippe, parce que moi, quelqu'un qui me fait écouter les Beach Boys, en fait, j'arrive même plus à défendre ma chronique après.
Pourquoi voter pour vous aujourd'hui, mon cher Mathieu?
Je vous ai quand même donné des solutions pour pouvoir tenir pendant des mois de confinement, et comme c'est peut-être ce qui nous attend, franchement...
Oui, c'était presque la chronique la plus utile du jour, c'est ça que vous nous dites.
Ça. Enfin, je veux dire, dans un temps de crise, il faut rester dans les chroniques utiles, vous voyez. C'est bien joli les belles histoires de Loft en Allemagne, etc. Mais enfin, il y a un moment...
Allez.
N'attaquez pas, non. Vous militez pour votre chronique, ne tentez pas d'abaisser les autres. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous?
Pourquoi? J'ai envie de dire, Dieu seul le sait, God only knows. Ne serait-ce que pour cette magnifique chanson de Brian Wilson et des Beach Boys. Pardon Mathieu Charrier, mais c'est un peu plus utile, il me semble.
Hélène Cole, pourquoi voter pour vous depuis Berlin?
Écoutez, moi ça fait 17 ans maintenant que je travaille depuis Berlin avec des employeurs français. 1070 km entre moi et la rédaction. Et donc en tant que vétérane du télétravail, j'estime que vous me devez le respect et que vous me devez votre vote.
Oui, et je viens d'élire à l'unanimité de moi-même le mot vétérane comme le mot le plus laid de l'histoire de la langue française. Vétérane. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Eh bien figurez-vous qu'ils ont voté utile. Ils ont voté pour Mathieu Charrier, ils avaient besoin d'avoir quelques bonnes idées.
En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Hélène Cole, notre correspondante à Berlin, pour cette histoire extravagante où dans un loft, les participants de Big Brother, l'émission télé, ne sont pas au courant de la pandémie. Grand bien leur en face, mais vous le savez, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, Eva Rock, vous votez désormais aussi à la place de l'invité. Eva, qui selon vous mérite d'être sacrée?
Comment je vais faire? Je vais voter pour Jean-Philippe. Je vais voter pour Jean-Philippe.
Merci,
parce que les Beach Boys quand même, non, ça m'a réjoui.
Et Christophe Ondelat, avant de partir, m'a dit qu'il aurait voté pour moi.
Non, Mathieu Charrier, commencez pas à tricher.
Mathieu Charrier, en plus, vous n'avez pas besoin de tricher
pour
une fois, puisque vous remportez la 135e journée de l'équipée sauvage avec vos deux points. La deuxième en mode confinement total, car comme le gouvernement, on a mis un peu de temps à réaliser l'importance de la distanciation sociale, puisque vendredi encore, nous étions en public à hurler. Et savoureux souvenir. Désormais, on se retrouve dans mon salon chaque après-midi. On vous met des petites photos sur Instagram. Courage
sur
à tous,
aussi.
Merci.
Ouais.
Et sur Twitter, merci à mes équipiers du jour, Eva Rock, Virginie Fulpin, Hélène Cole, Mathieu Charrier, Jean-Philippe Ballas, Olivier Pouls, ainsi que nos héros de la technique, Romain Causer et Philippe Amardeille. Je salue aussi les confinés de l'ombre, Oriane Alévi, Claire Dutronc et Sébastien Bordenave. L'équipe sauvage revient demain 16h. Je changerai peut-être de pièce, j'irai peut-être dans ma chambre pour voir un petit peu. Tout de suite, restez sur Europe 1. Voici Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Mathieu, et vous dites merci à la technique d'Europe 1, et c'est vrai qu'ils nous permettent de faire ces émissions chacun chez soi. Je vous salue dans votre salon Mathieu, et je vous souhaite la bienvenue dans le mien. Belle soirée à vous, à demain 16h.